Vous écoutez RTL. Curiosité est un vilain défaut.
En 1945 a lieu pendant deux mois une série d'attaques suicides d'une intensité sans précédent dans l'histoire.
RTL.
Une stratégie qui contraint des escadrilles entières de pilotes à s'envoler vers leur propre mort.
Jusqu'à 22h.
Comment a-t-on pu convaincre une génération d'hommes à sacrifier leur vie?
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Peut-être les avez-vous vus, ces images incroyables d'avions japonais qui foncent et s'écrasent sur des navires de guerre américains. Nous sommes en octobre 1944, l'armée japonaise est en pleine déroute. Elle décide d'utiliser cette arme humaine, les kamikazes. Plus de 3800 pilotes se sont sacrifiés pour ralentir les Américains dans le Pacifique. La propagande japonaise en a fait des héros volontaires, mais l'étaient-ils vraiment? Bonsoir Pierre-François Soury.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien et spécialiste du Japon. Comment le Japon a-t-il eu cette idée de mettre au point cette arme, ces bombes humaines?
Ah, c'est une idée qui leur est venue petit à petit au cours de des combats. Ils se sont aperçus que certains pilotes désespérés choisissaient de se jeter sur un navire ennemi. Les Japonais n'étaient pas le seul à le faire. Hein. On a eu des exemples au cours des combats de la Seconde Guerre mondiale où des pilotes se sont jetés sur leur cible, sachant que leur appareil était détruit.
Des pilotes allemands ou américains
ou français même. Ah oui. Il semble qu'il y ait quelques cas en France en 1940 et américains.
Donc c'est pas la volonté des pilotes qu'on jugeait, mais l'efficacité,
non,
c'est du résultat.
Oui, c'est-à-dire c'est les pilotes eux-mêmes se sentant perdus, sentant leur appareil détruit ou en voie de destruction, se jetaient sur l'ennemi dans un acte de courage final en quelque sorte. Hein. Il y a eu quelques cas comme ça. Et surtout, les Japonais avaient commencé à imaginer une stratégie épouvantable qui consistait à opérer des charges, ce qu'ils appelaient en japonais par choc corporel contre l'ennemi. Hein. C'est-à-dire, ils demandaient à leurs soldats de se jeter sur l'ennemi de façon à effrayer en fait les troupes ennemies.
Mais se jeter physiquement, sans avion, c'est ça, du corps,
oui,
à corps.
Physiquement, à la baïonnette ou avec simplement le fusil dans la main. Et on a eu ainsi, à partir de 1943-44, pas mal d'exemples de ces charges à la mort, ce que les Américains appelaient ça des banzai charges.
Et cette idée de remplir des avions de chasse d'explosifs et de les jeter sur les navires américains.
Alors c'est une idée qui apparaît en fait dans la tête du vice-amiral Onishi, qui est à l'origine de cela. C'est-à-dire qu'il se retrouve lors de la bataille de Leyte, qui est la bataille des Philippines, qui est en fait la grande bataille finale de la guerre du Pacifique. Si les Japonais avaient réussi à empêcher les Américains de débarquer aux Philippines, alors peut-être la guerre aurait pu connaître un autre sort, ou en tout cas les Japonais auraient pu peut-être négocier avec les Américains une paix de compromis. Or, ils n'ont pratiquement plus d'avions et la bataille finale, ils savent qu'elle va être perdue. D'où cette idée un peu folle de manière complètement ponctuelle, de lancer des appareils chargés d'une bombe, donc de 250 kilos, sur les bateaux américains pour les détruire.
Donc ils choisissaient des cibles bien particulières, c'est-à-dire les bateaux les plus importants, les plus stratégiques, j'imagine.
Ben bien sûr, d'abord il fallait les repérer, ouais. Ensuite il fallait pouvoir les atteindre et puis ensuite les viser et les taper, ce qui était quand même pas une petite affaire.
Mais ça semble paradoxal puisque vous nous dites qu'ils ont de moins en moins d'avions. Et en sacrifiant un homme, il sacrifie l'avion aussi, d'une certaine façon.
Non seulement il sacrifie l'avion, mais il sacrifie le pilote.
Ben oui.
Et très rapidement, le modèle économique du kamikaze est un modèle totalement aberrant. Oui. Puisqu'à la fin, ils n'ont plus d'avion, ils n'ont plus de pilote. Donc on se retrouve dans une situation totalement folle. Mais au début, encore une fois, il s'agissait d'un acte ponctuel. Le problème, c'est que lorsqu'il y a la première opération de kamikaze, donc le 25 octobre 1944, l'un des appareils de l'escadrille, d'une des escadrilles qui est lancée à ce moment-là, percute un porte-avions, mais c'est le hasard, touche la soute aux munitions et donc fait exploser le porte-avions. Et les rapports des Japonais sont extrêmement dithyrambiques. Ils disent comment, avec un seul avion, on a cassé un porte-avions, donc c'est une stratégie payante, donc il faut continuer. Le problème, c'est qu'ils ne réussiront plus jamais à toucher un porte-avions, ou du moins à le détruire avec un seul avion, de cette manière. Donc c'est une stratégie totalement folle quand on réfléchit.
Pierre-François Soury, les pilotes de ces forces d'attaque spéciales devront mourir comme des fleurs du cerisier. C'est la métaphore qui est utilisée à l'époque par l'état-major ?
Oui, mais il faut bien comprendre que le discours, la propagande militaire japonaise est fondée sur un rapport particulier à l'histoire, à la mythologie, à la littérature classique du Japon. Et la fleur de cerisier est depuis des temps très anciens, mais en particulier depuis la mise en place de l'État-nation à la fin du 19e siècle, le symbole le cerisier, c'est vraiment le symbole de la jeunesse. Hein, c'est le symbole de la jeunesse, c'est le symbole de la beauté. Et c'est une beauté particulière parce qu'à peine est-on arrivé au sommet de cette beauté que cette beauté s'étiole, puisque, comme vous le savez sans doute, le moindre souffle de vent fait, les pétales se dispersent.
On racontera bien sûr comment sont choisis ces kamikazes et s'ils sont choisis ou s'ils sont volontaires. C'est une manière de convaincre les jeunes de s'engager, ça, de mourir. On va mourir joliment comme une fleur de cerisier.
Ben, c'est-à-dire que toute la propagande militaire explique aux soldats, pas seulement aux pilotes, que mieux vaut mourir que de se rendre, et que de fait, surtout à partir de 1944, les pertes dans l'armée japonaise sont telles que la plupart des soldats ou des pilotes savent que leur chance de survivre au combat est extrêmement minime. Donc d'une certaine façon, on leur dit, ben, puisque de toute façon tu vas mourir, autant mourir en beauté en quelque sorte. Mmh. Et donc toute la propagande les pousse à, en quelque sorte, à se suicider de façon spectaculaire. Essentiellement, à vrai dire, pour terroriser les Américains. C'est une arme de guerre, en fait.
Hein. Oui, c'est une arme psychologique.
C'est une arme psychologique.
Ouais. Pierre-François Souiri, ça veut dire quoi, kamikaze ?
Alors, kamikaze, ça veut dire, c'est donc un mot d'origine japonaise, évidemment, qui signifie vent divin, hein, vent de Dieu, le vent des dieux, qui est un mot qui sort du vocabulaire des classiques japonais depuis qui existe, enfin au moins depuis le 7e siècle, et qui est une référence en fait au vent divin que soulèvent les divinités, notamment la divinité d'Issei, qui est l'ancêtre de la dynastie impériale. Et puis c'est un mot qui a été également utilisé au moment des invasions mongoles au 13e siècle, lorsque les Mongols ont tenté de débarquer au Japon et ont échoué. La flotte mongole a été repoussée par un typhon. Et les Japonais ont appelé ça donc un vent divin. J'insiste là-dessus, vent divin ou bien Shikishima, qui est une des anciennes appellations du Japon, ou bien Yamazakura, le cerisier en fleur, le cerisier de montagne, le cerisier sauvage. Tout ça, ce sont des appellations qui sont utilisées par les Japonais pour désigner les escadrilles qui partent au combat. Mmh. Donc, on insiste beaucoup sur cette implication des pilotes dans une histoire de très longue durée. Ils s'inscrivent en quelque sorte dans une mythologie de très longue durée et ils en font partie, l'intègre d'une certaine façon. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que le mot de kamikaze est pratiquement pas utilisé au Japon. À chaque fois que je dis, par exemple, je vais au Japon et je dis, j'étais en train d'écrire un livre sur les kamikazes, tous les Japonais m'ont repris en disant, les tokotai.
C'est-à-dire
les sections spéciales d'assaut, en quelque sorte, les unités spéciales d'assaut.
Alors, vous allez continuer de nous raconter l'histoire de ces tokotai, unités spéciales d'assaut, notamment ces pilotes, mais on est tous persuadés qu'ils étaient volontaires. Peut-être que c'est plus compliqué que ça. Restez avec nous.
Vous écoutez RTL.
Il y a 70 ans, pendant la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle arme de guerre était inventée. Les kamikazes, ou tokotai, comme on dit au Japon, ces pilotes japonais qui s'écrasent avec leur avion chargé d'explosifs sur les navires américains pendant dans le Pacifique. Pierre-François Souiri, vous êtes historien et vous avez voulu savoir qui étaient ces kamikazes. Qui étaient-ils vraiment ? Ce sont des soldats fanatiques ?
Bien écoutez, c'est ce que la propagande américaine a essayé de montrer. Les Américains ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Ces avions qui fonçaient sur les bateaux américains et qui s'écrasaient au sol sans même tirer des balles. Hein.
C'était impensable.
Ils comprenaient pas pourquoi ils lançaient même pas des mitrailleuses sur les avions, mais il y avait pas de mitrailleuses sur ces avions-là. Objectif était de taper, oui.
Le
navire
avec une bombe ou des explosifs.
Alors,
à l'intérieur,
chaque zéro, puisque c'est le nom de ces avions, chaque zéro emportait une bombe de 250 kilos. Ouais. Et donc leur mission était de taper donc la coque donc du navire américain.
Est-ce que ce sont donc des... Pardon, Sidonie, on a souvent la même question au même moment, des volontaires.
Alors ça, c'est une question donc très difficile. La propagande japonaise les montre comme telles. pour eux, c'est important. Il n'y a aucun ordre officiel de l'état-major disant « vous allez faire partie des kamikazes ». Il n'y a aucun ordre signé, ni même, pas même de l'empereur, disant voilà, on a organisé des escadrilles particulières dont
c'est-à-dire
l'objectif.
On n'a pas retrouvé de documents avec des ordres officiels.
Aucun document.
Ou à l'époque même, on ne donnait pas un ordre officiellement.
Les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de documents. On a très peu de documents en fait. C'est un des problèmes de faire l'histoire de cette affaire. Mais en même temps, il faisait en sorte de laisser croire que les gens étaient volontaires. Alors, dans la réalité, bien entendu, c'est tout à fait compliqué parce que. Aucun kamikaze ou aucun pilote n'a été convoqué individuellement devant un officier qui lui aurait dit « alors tu as le choix, vraiment, tu peux, tu ne peux pas ». C'est pas du tout comme ça que ça se passait de façon collective, donc toute l'escadrille était réunie. Alors il y a différents scénarios possibles, des fois on leur...
Pardon Pierre-François Souris, c'était des as de l'aviation ?
Alors au début, ce sont effectivement d'excellents pilotes parce que c'est pas si simple que ça hein, de percuter un avion comme ça en plongée. Mais très rapidement, ils se sont rendus compte que évidemment, le taux d'attrition étant de 100% par définition, ils avaient plus de pilotes. Donc ils ont gardé les meilleurs pilotes pour accompagner les kamikazes en réalité. Et au fur et à mesure que la guerre continue, donc à l'hiver, le printemps 45 et même le début de l'été 45, pratiquement les pilotes n'ont plus aucune formation sérieuse. En gros, pour former un pilote de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains, les Japonais comptent à peu près 600 heures d'entraînement. Là, on est réduit à 48 heures.
Et dans votre...
Vous donner 72 heures dans le meilleur des cas.
Et dans votre livre Kamikaze, publié chez Flammarion, la collection Au fil de l'histoire, on voit d'ailleurs une photo de ces apprentis pilotes qui apprennent, en fait, ils apprennent pas sur un avion, quoi, ils apprennent au sol, dans
non.
Une espèce, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? C'est une espèce de petite caisse
De caisse avec des bâtons qui ressemblent vaguement à un manche à balai.
Qu'est-ce qu'ils apprennent à décoller?
Alors, ils apprennent à décoller, ils apprennent à voler en formation. On leur apprend pas la navigation, ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui se perdent dans les nuages.
C'est absurde.
Et on leur apprend plus à atterrir puisque ça sert à rien. Donc, s'il y a quelques cas de pilotes, au début en tout cas, qui se sont rendus compte que leur avion marchait pas bien, qui risquait d'avoir une panne, ou qu'il y avait une fuite d'essence ou quelque chose, et qui ont fait demi-tour, et qui ont donc, ils sont revenus sur la base en disant, voilà, ça marche pas. Ils se font en général littéralement tabasser par leurs officiers, mis au mitard, et une fois qu'ils ont récupéré, ils repartent en mission immédiatement. Ils se font traiter de lâches devant leurs camarades, de dégonflés, etc. Donc il y a quand même une pression qui est terrible, hein, qui est terrible contre eux, une pression à la fois des officiers et une pression du groupe lui-même. Hein. Certains disent, à la fin, donc quand on leur dit que ben voilà la guerre est terminée, qu'ils partiront jamais, on pourrait penser qu'ils ont poussé un ouf de soulagement, mais certains craquent, pleurent en disant comment mes copains sont partis, ils sont morts, et moi qu'est-ce que je vais devenir ?
Donc c'est comme un lavage de cerveau en quelque sorte, vous diriez ça ?
Oui, alors ça ressemble un peu à ça. Il faut dire que le problème, c'est que ces kamikazes ont laissé beaucoup de textes. D'abord parce qu'ils avaient le temps, puisqu'ils étaient sur des bases aériennes, des aérodromes, et puis on leur disait, tu partiras, on ne sait pas quand, mais tu vas partir. Donc ils avaient le temps, en quelque sorte, de rédiger. Et très vite, la propagande japonaise s'est rendue compte que ces textes, on pouvait les utiliser. Et par ailleurs, et ça c'est terrible aussi, dans la deuxième partie de cette histoire, c'est-à-dire à partir du printemps 45, on recrute comme pilote des forces spéciales, donc kamikaze, on recrute essentiellement des étudiants, qui sont les étudiants de lettres et de droit.
Pourquoi de lettres et de droit ?
C'est parce qu'on pense que les étudiants... D'abord, les étudiants n'ont pas été mobilisés jusqu'en 1943, donc on les mobilise vraiment à la fin de la guerre. Et les étudiants scientifiques ou les étudiants en médecine, on pense qu'on va en avoir besoin. Les étudiants en lettres ou en droit, on peut les sacrifier.
C'est horrible, ils ont plus de valeur, les scientifiques,
oui,
et les médecins.
Oui, mais ce n'était pas tout à fait idiot, parce que ces gens, par définition, savaient écrire. Et donc, ils se sont rendus compte que les lettres qu'ils écrivaient étaient de grande qualité, parfois de grande qualité littéraire.
Et qu'est-ce qu'on pouvait lire dans ces lettres, Pierre-François Souris ?
Il y avait des sortes de modèles, ils écrivaient tous souvent à peu près la même chose, hein, c'est des modèles qu'on leur donnait, mais certains...
C'était des lettres d'adieu,
Des lettres d'adieu à leur famille, à leurs frères, à leurs sœurs, à leur mère souvent. Beaucoup de lettres à des femmes, hein, mères ou sœurs, hein, parfois petites amies, mais c'était tellement jeune que certains n'en avaient pas encore. Hein. Et ce sont des lettres assez, assez poignantes parce que elles parlent de leurs sentiments personnels. Et puis alors certains ont réussi à faire passer des lettres qui, elles, sont totalement hors censure. Alors ils ont utilisé des subterfuges divers pour faire sortir les lettres. Et certaines de ces lettres sont, sont tout à fait étonnantes. Certains pilotes expliquent très clairement que... Il y en a un qui dit carrément je hais la marine impériale, je hais mes officiers, je hais cette armée, je ne meurs pas pour eux, je meurs pour mon pays, je meurs pour ma famille, mais je ne meurs pas pour eux. Et il y en a un qui dit, et lorsque je serai dans l'avion et que je me jetterai sur le bâtiment américain, je crierai « mort à l'armée ». Donc vous voyez, c'est pas du tout des gens, enfin pour certains en tout cas, c'est pas du tout des gens qu'on peut qualifier de fanatiques. Il y en a un qui utilise un vocabulaire qui est tel qu'on peut penser qu'il a été influencé par la rhétorique communiste. Et qu'il est en fait pas communiste, mais il est proche de ces idées-là. Il dit « moi je meurs pour un Japon libre et indépendant et démocratique ». Enfin, c'était la rhétorique communiste de l'époque, évidemment.
Donc ils n'étaient pas tous volontaires, on l'a bien compris. Question de Max qui nous appelle du Finistère, qui dit « j'ai vécu un an et demi au Japon, j'ai entendu dire que ces kamikazes prenaient des drogues avant de décoller ». Est-ce que vous avez eu la confirmation de ça ?
J'ai jamais entendu dire ça.
Ça fait partie des rumeurs autour de ou des mythes autour des kamikazes.
Il n'y a aucune source qui permette de l'affirmer. Oui, je pense que c'est une rumeur. Oui.
Les kamikazes, l'arme du désespoir inventée en pleine déroute des Japonais à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On va découvrir que cette idée du sacrifice n'est pas apparue du jour au lendemain.
Vous écoutez RTL.
Il n'y a rien de plus terrible que de voir fondre sur soi un pilote qui ne s'arrêtera pas.
La curiosité est un vilain défaut.
C'était une guerre d'usure au moindre coût.
RTL.
Et sans respect de la vie humaine. La stratégie kamikaze est très démoralisante et très efficace.
Jusqu'à 22h.
Pour moi, c'était des animaux pour être capable de faire ça.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Nous sommes en automne 44, le Japon en guerre contre l'ennemi américain lance ses premières missions suicides dans le Pacifique. En tout, 3800 hommes s'écraseront avec leurs avions chargés d'explosifs d'une bombe de 250 kilos sur des navires américains. Pierre-François Souiri, vous nous racontez, vous incarnez l'histoire de ces hommes dans un livre Kamikaze publié chez Flammarion. Justement, on va raconter l'histoire du premier Kamikaze, cette première attaque 25 octobre 44. Par qui est-elle menée?
Alors, cette histoire est racontée dans le livre. Je précise quand même que ce livre a été écrit aussi avec Constance Sérigny, qui, en l'occurrence, est la responsable des lignes que je cite là maintenant, c'est-à-dire l'histoire de Seki Yukio, qui est le premier kamikaze. Alors, c'est un as de l'aviation, c'est un très bon pilote. Il est donc sur une base aux Philippines. Et Onishi, qui est vice-amiral, vient expliquer avec les officiers, vient expliquer aux soldats que ils vont donc désormais utiliser cette tactique. Et là, il y a trois récits qui nous racontent cette affaire. Il n'y a aucune source, il n'y a que des témoignages postérieurs. Le premier récit, celui fait par un officier qui était sur place, raconte une belle histoire. C'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, vous allez être le premier. Le gars répond, c'est qui Yukio, donc répond, c'est un honneur. Tous les autres soldats, les autres pilotes avec lui disent « bien sûr, on y va avec toi ». Et voilà. Et donc, c'est formidable, ces gens sont volontaires, et ils se battent pour le Japon et ils partent en quelque sorte la fleur au fusil.
Ça sent bon la propagande, ça.
Ça sent bon la propagande, mais c'est un texte quand même qui a été rédigé en 1954 ou 55. C'est un témoignage a posteriori. Hein. Puis il y a une deuxième explication, il y a un autre texte qui dit qu'en fait, quand on lui dit qu'il est choisi donc pour être le premier... Seki Yukio n'a pas l'air très convaincu. On le saurait à moins. Oui. Il dit mais laissez-moi quand même la nuit pour réfléchir. Et le lendemain, il finit après avoir réfléchi par accepter. Et d'autres pilotes lui disent bah alors si tu y vas, j'y vais avec toi. Donc là, on retrouve la camaraderie, l'esprit de corps, etc. Puis il y a une troisième version qui est très intéressante parce qu'elle est faite par un journaliste de la propagande japonaise. Qui est sur place à ce moment-là, c'est pas un hasard si un journaliste sur la base à ce moment-là, puisque finalement on l'a fait venir. Et il essaie de coincer littéralement Seki Yukio le jour d'après pour lui dire, pour l'essayer de l'interviewer. Et Seki Yukio le renvoie, le rembarre, extrêmement agacé. Puis finalement, il accepte de lui parler. Et il lui dit quelque chose de terrible. Il lui dit, tu sais, monsieur le journaliste, si le Japon arrive à faire tuer comme ça ses meilleurs pilotes, alors il est foutu.
Vous pensez que la vérité se situe où, Pierre-François Souéry?
Il dit, je ne fais pas ça pour l'empereur, je fais ça pour ma femme, parce que j'ai peur qu'elle soit violée par les Amerlocs. Et de toute façon, j'ai pas le choix, ce sont les ordres. Ce qui, évidemment, casse complètement la vision, disons, propagandiste. D'abord, il a reçu des ordres, il obéit aux ordres, il y croit pas, la hiérarchie est considérée par lui comme des imbéciles. Et en plus, il dit cette phrase terrible, un type comme moi sait manier un avion, je suis capable de balancer une bombe de 500 kilos sur un porte-avions sans avoir à m'écraser dessus.
Mais oui. Mais il est d'une lucidité absolue
quand il dit totale,
si ce pays est capable de prendre une telle décision, il est foutu. C'est évident.
C'est un témoignage qui n'a pas été publié pendant la guerre, qui a été publié après la guerre. Où est la vérité? On ne le saura jamais, parce que c'est témoignage contre témoignage.
Mais c'est un jeune homme, quel âge il a? Il a une vingtaine d'années.
Il a 23 ans, il vient de se marier. Mmh. C'est un des bons pilotes de l'aéronavale japonaise.
Et comment va se passer cette première mission?
Alors, cette première mission,
25 octobre 1944.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, ils réussissent à repérer une escadre américaine et la première escadrille, enfin, le groupe, hein, l'escadron s'appelle Kamikaze, donc vent divin, puis il y a quatre escadrilles qui, tour à tour, vont frapper les bateaux japonais. Et de toute la guerre, ce sera le résultat militaire le plus spectaculaire. Et jamais ils réussiront à faire à nouveau un carton pareil sur les bâtiments américains. Et c'est de cela que vient en quelque sorte le paradoxe et un peu la contradiction.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure, ils ont réussi à couler un porte-avions, c'est ça?
Ils ont réussi à couler un porte-avions, on a endommagé d'autres et d'autres navires. Donc finalement, les Japonais ont l'impression que c'est une tactique qui est formidable, qui réussit. Et c'est vrai que si avec un seul pilote et un seul avion, on est capable de descendre un porte-avions où il y a 30 ou 40 avions embarqués, c'est une vraie victoire. Mais le problème, c'est que, vous avez dit tout à l'heure, je m'en excuse, vous avez dit 3800 kamikazes qui sont morts en percutant les bateaux américains. Malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel point de vue on se place, il y en a pas eu 3000, il y en a 3800 qui sont morts, mais sur les 3800, il y en a eu très peu qui ont percuté des bateaux américains.
Oui.
La plupart
se sont loupés,
la plupart ont été descendus par les DCA américaines. Certains se sont perdus en mer, ils savaient pas naviguer.
Ouais.
Donc, et puis en plus ils avaient une quantité de carburant qui leur permettait d'aller sur la cime et pas de revenir. Donc ces temps perdus, ils se sont probablement écrasés dans les flots sans voilà. Et d'une certaine façon, les pertes japonaises sont terribles parce qu'elles sont de 100%. Mais les résultats sont très maigres. Au début, on est à peu près 20-25% d'avions qui percutent des bâtiments américains. Mmh. À la fin, on est à moins de 8%. Vous vous rendez compte, 8%, c'est rien.
Ouais, on est vraiment dans l'absurdité.
C'est l'absurdité
et l'absence de modèle économique, ce que vous disiez tout à l'heure. Question d'Henri, qui nous appelle de Seine-Maritime. Voilà, Diane attend toujours vos appels au 3210, évidemment. Qui se pose une question autour de l'empereur. Elle est intéressante. Il faut savoir, alors il est affirmatif, hein, il faut savoir qu'ils étaient au service de l'empereur du Japon, qui était pour eux comme un dieu, les kamikazes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que là on est dans la propagande?
Alors bon, bien sûr qu'on est dans la propagande, bien sûr. Alors le croyait-il de manière intime? Ça c'est difficile à dire. Mmh. Si vous voulez, bien sûr c'est une guerre nationaliste et impérialiste que mènent les Américains, que mènent les Japonais. Mais à partir de 43-44, les Japonais ont aussi le sentiment que les Américains veulent détruire. L'objectif des Américains clairement affirmé, c'est on va prendre Tokyo. Mmh. Donc à partir du moment où les Américains disent on va prendre Tokyo, il y a un réflexe assez naturel, c'est on défend la patrie. Donc on défend peut-être l'empereur, mais on défend aussi la patrie. Et il y a un double sentiment à ce moment-là, ce qui explique d'une certaine façon la résistance japonaise. Mais c'est pas un atavisme culturel, ça. Je veux dire, se battre comme des fous, comme ils l'ont montré à cette époque-là, parce qu'on voit très bien, lors d'un épisode qui est peu connu en Occident, mais qui est quand même très important, c'est dans les premiers jours qui suivent l'offensive soviétique en Mandchourie en août 1945, donc après Hiroshima. Donc le 8 août, l'armée rouge intervient en Mandchourie. Mmh. Et en quelques jours, elle fait 600 ou 700 000 prisonniers de guerre japonais. Autrement dit, les Japonais se rendent. Et pourquoi ils se rendent? Parce que les officiers nationalistes qui défendent la cause impériale se sont enfuis, les ont plantés là, littéralement. Mmh. Avec les civils japonais, d'ailleurs. Et donc, ces gens vont se rendre et peupler, d'ailleurs, les camps soviétiques en Sibérie. Donc, vous voyez que l'idée que les Japonais défendent leur empereur, c'est une idée à géométrie variable. Hein. Mmh. C'est-à-dire, quand ils ont les officiers qui les obligent à le faire, bah, ils le font parce que la propagande, la pression, etc. Et puis, quand les officiers abandonnent leurs troupes, ils se rendent comme n'importe quelle armée qui est battue.
Mmh. Merci à Henri pour cette question.
3800 kamikazes qui se sont sacrifiés pendant 10 longs mois. On continue de raconter leur histoire dans la curiosité et sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. RTL. 20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Ce soir dans la curiosité, on vous raconte le destin des Tokotai. Ce sont les kamikazes et pilotes japonais sacrifiés au nom de l'honneur et de l'horreur surtout. On raconte leur histoire passionnante avec l'historien passionnant aussi Pierre-François Souris. Vous publiez Kamikazes aux éditions Flammarion avec Constance Sereni. Et dans ce livre, vous faites non?
Si,
pardon, je vous vois faire des gestes.
C'est très bien.
Je suis à votre écoute.
C'est bien Constance Sereni qui a écrit le livre.
Bien sûr, oui, quand même. Vous racontez notamment que cette notion de se sacrifier pour l'honneur ne naît pas du jour au lendemain. En tout cas, cette propagande qu'a pu écrire le Japon et l'État japonais ne naît pas du jour au lendemain et a pu grandir dans la culture, notamment à travers l'histoire des samouraïs que l'on découvre à peu près au Xe siècle. Quelle est cette histoire ?
L'histoire des samouraïs, c'est une histoire assez différente de celle des kamikazes. Je voudrais pas qu'on s'imagine que l'un est lié à l'autre.
C'est pour ça que je vous pose la question.
Ouais. Oui, c'est quand même deux choses très différentes. Les kamikazes naissent dans un contexte très différent, qui est celui d'un État moderne, industriel. Les kamikazes sont des gens, comme je l'ai dit, souvent des étudiants, mais pas nécessairement des descendants de samouraïs ou quoi que ce soit de ce genre. Ce qui est certain, c'est que l'armée impériale, à partir donc des dernières années du 19e siècle, se mue petit à petit en une armée impérialiste, une armée colonialiste. Et on développe au sein de l'armée japonaise des pratiques qui sont assez particulières, qui mettent l'accent sur ce qui effectivement relève de la tradition classique du Japon, qui est un rapport à la mort, mais qui n'est pas uniquement lié au samouraï, qui est un rapport très particulier à la mort. Et dans l'histoire japonaise, souvent les personnes qui sortent glorifiées du mythe sont celles qui ont eu une belle mort. C'est pas ceux qui ont gagné, c'est ceux qui sont bien morts. Et la mort, même si on est vaincu, si c'est une belle mort, d'une certaine façon, jette l'opprobre sur le vainqueur, même si ce vainqueur est victorieux en définitive.
Donc il y a une esthétique de la mort.
Alors il y a une forme
japonaise,
effectivement, d'esthétique de la mort, mais c'est pas une mort pour gagner. C'est ça qui est important. Et dans les livres scolaires japonais qui sont donc imposés à la lecture des enfants dès les écoles primaires, on retrouve de ces récits qui sont évidemment écrits et transformés à destination des enfants, où finalement on vante ceux qui ont su bien mourir et pas tellement ceux qui ont su se battre pour une cause et la faire triompher. Et d'une certaine façon, moi je dis que cet État japonais, cet État-nation japonais qui se cristallise donc à la fin du 19e siècle, est un État avec une dimension franchement suicidaire. C'est-à-dire que quand on réfléchit deux secondes à froid, ces gens-là mènent une guerre contre la Chine qu'ils ne réussissent pas à gagner. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire la guerre en plus à l'Angleterre et aux États-Unis. Quand on réfléchit deux secondes, c'est complètement aberrant. Mmh. C'est une manière de... Enfin, je veux dire, d'un point de vue stratégique, ça n'a pas de sens. Or, ils le font quand même. Et ce que n'ont pas compris les Américains, c'est qu'ils ne se battent pas pour gagner la guerre, mais tout simplement pour, en quelque sorte... ils essaient de mettre en avant une forme de suicide collectif.
Et comment vont réagir les Américains?
Justement, ça les affole. Ça les affole parce qu'ils comprennent pas. J'ai entendu tout à l'heure passer quelqu'un qui dit ce sont des animaux. C'est-à-dire qu'on les déshumanise parce qu'on ne comprend pas leur type de réaction. Mmh. Et effectivement, cette manière de vouloir se battre jusqu'au bout alors que l'on sait que la guerre est perdue a quelque chose d'irrationnel. Pour les Américains, voir ces pilotes qui se jettent sur eux, ou ces soldats qui chargent à la baïonnette contre des mitrailleuses, ça a un côté totalement fou. Et donc, du coup, ils se disent, ils sont pas comme nous. Et donc, d'une certaine façon, on les déshumanise. Et ça va expliquer avec quelle facilité on va pouvoir utiliser l'arme nucléaire contre des populations civiles. Puisqu'on estime que ces populations civiles, au bout du compte, est-ce que c'est vraiment des humains, hein, puisqu'ils se comportent de cette manière-là. Donc il y a ce discours des kamikazes, en quelque sorte, ce discours suicidaire de la nation japonaise, va d'une certaine façon se retourner contre eux-mêmes, hein, à la fin. C'est ça qui est tout à fait étonnant. Mmh. C'est que les Américains vont rentrer dans ce discours-là, mais pour faire autre chose.
Et pour en finir le plus rapidement, possible. C'est la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki. Ça marque la fin de la guerre ?
Oui, mais enfin, bon, la décision de lancer la bombe, évidemment, est une décision très complexe et qui ne se réduit pas à l'affaire des kamikazes, bien entendu. Il y a aussi des enjeux stratégiques, la rivalité déjà naissante avec l'Union soviétique, d'autres choses encore. Mais d'une certaine façon, oui. À l'horreur qu'implique donc cette volonté suicidaire de la nation japonaise, va répliquer une autre horreur qui est l'horreur nucléaire et celle du plus généralement d'ailleurs des bombardements au napalm des villes japonaises qui sont des villes comme vous le savez en bois et donc qui flambent comme des allumettes et qui vont évidemment déclencher des véritables massacres terribles de populations civiles.
Mmh. Pierre-François Souiri, pour votre livre Kamikaze publié chez Flammarion, vous avez rencontré certains de ces kamikazes qui sont revenus, qui ont survécu ou qui n'ont pas été envoyés en mission au dernier moment.
Alors non, je n'ai pas rencontré de kamikazes. Ils sont les quelques survivants qui restent sont extrêmement vieux maintenant. Ouais. Mais par contre, on a évidemment leur témoignage, soit leur témoignage radio ou télévisé, soit et surtout les textes qu'ils ont écrits que nous avons lus. Certains sont traduits en anglais ou en français. Pas beaucoup, mais quelques-uns. Mais il y en a beaucoup qui existent en japonais. Et puis nous avons, bien sûr, utilisé essentiellement ces fameuses lettres dont je parlais tout à l'heure, les lettres des kamikazes eux-mêmes, qui montrent qu'il y avait une diversité très, très grande de ces personnes.
Il y en a une très jolie d'ailleurs d'un jeune pilote, c'est Otsuka Akio. Il va faire son ultime mission. Elle se déroule le 28 avril 1945. Est-ce que vous pouvez nous lire le début de sa lettre, Pierre-François Souiri?
Je me suis levé à 6 heures ce matin pour respirer l'air pur de la montagne. Et tout ce que je ferai aujourd'hui le sera pour la dernière fois.
Il sait que c'est sa dernière mission.
Il sait que c'est sa dernière mission et il va décrire tout ce qu'il va faire en disant voilà, c'est la dernière fois. Ce ne sont pas des fanatiques, c'est ça qui ressort de ces textes. Et ce sont des gens broyés par un système, des gens qui n'ont guère le choix.
Et quelle image, ils ont aujourd'hui dans la société japonaise d'aujourd'hui?
Alors ça c'est tout à fait intéressant parce que la société japonaise, comme n'importe quelle société d'ailleurs, est fractionnée en divers types de discours idéologiques. Il y a bien sûr les nationalistes qui considèrent ces gens étaient des héros. Bon, et puis il y a tout un certain nombre de milieux, notamment parmi les intellectuels, qui sont beaucoup plus critiques. Mais tous finalement admettent, il y a quelque chose de terrible dans le sort de ces jeunes gens. D'abord, ils étaient très jeunes, mais il y a quelque chose de terrible parce que ils n'avaient aucun choix. C'est-à-dire, moi, je dis à un moment dans le texte, ils sont dans les couloirs de la mort.
Kamikaze aux éditions Flammarion. Merci infiniment,
merci
Pierre-François.
C'était passionnant.
Souiri, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez la podcaster, bien entendu, sur RTL.fr. On vous dit bonsoir.
Vous écoutez RTL.